Jusqu'à 14h, on en jase.
Émission On en jase, son émission du midi, il est précisément midi 41 minutes à la météo. Il y a de l'accumulation de neige, les amis. 5 à 10 cm autant présentement, ce qui est en train de tomber que ce soir, cette nuit. Et ça sera une faible neige chassant en mi-journée pour demain. C'est moins 1 degré aujourd'hui, mais moins 10 degrés demain. Moins 7 alternant soleil et nuages samedi. Moins 2 avec de la neige pour dimanche. Je vais vous dire bien honnêtement, quand on se regarde, quand on se compare, on se console, qu'on dit, je regardais la façon qu'on a déneigé à Montréal. C'est atroce. Les gens sont prisonniers du centre-ville, pas capables de monter les côtes. Qu'est-ce qui se passe avec notre métropole?
Oui, puis pour vrai, juste faire un petit point rapidement sur le déneigement parce que je suis d'accord, puis je pense que tout le monde a remarqué, cette année, ça va pas bien. Là, côté de la ville de Québec, les trottoirs,
ouais,
les
routes... Oui, mais il y en a qui disent ça, mais moi, dans mon coin, ça va super bien.
Ben moi, dans mon secteur, je le sens, là, que c'est moins beau que ça l'était. Mais par contre, je repense à mes années à Jonquière, puis je me dis, Seigneur, ça reste beau quand même, là, pas vrai. Fait que, comme tu dis, quand on se compare, on se console.
Circulation, Mathias?
Oui, juste rapidement, il y a eu un accident sur Robert Bourassa, en fait, une sortie de route, à voie de droite qui était fermée. Maintenant, tout est résolu. Il y a quand même un léger ralentissement là, dans le secteur de Robert Bourassa autour de Charest.
418-971-1021, oui ou non, êtes-vous satisfait du déneigement à Québec depuis le début de l'année? David qui écrit, moi, ma piste cyclable est super déneigée, mais David m'a envoyé des photos comme quoi il patinait sur son trottoir en fin de semaine. Fait que bon, c'est la vie, c'est comme ça. On souhaiterait que les trottoirs soient déneigés avant les pistes cyclables. On va rejoindre immédiatement Nicolas Lachance, excellent journaliste sur la colline parlementaire pour le Journal de Québec, Journal de Montréal. Il a sorti un excellent papier ce matin disant que Geneviève Guilbeault va être blâmée par le commissaire Galland lors de la sortie du rapport le 13 février prochain. Nicolas, merci d'être disponible pour l'émission On en jase sur Boulevard 102.
Salut!
Nicolas, j'ai pas le choix de te poser la question. Comment t'as su ça? C'est un adversaire de la CAQ, un adversaire de Geneviève Guilbeault qui a dit « Publie ça, Nicolas! »
C'est particulier qu'au lendemain de la démission de M. Legault, c'est les premières informations qui sont venues à nos oreilles, alors que les avis ont commencé à être envoyés aux employés des cabinets et aux ministres, par exemple Geneviève Guilbeault, M. Bonnardel aussi, François Bonnardel, ex-ministre des Transports, a également reçu un avis, pas le même genre d'avis, mais un avis quand même, un préavis que le nom de M. Bonnardel allait apparaître sans doute dans le rapport final. Est-ce que c'est de bonne guerre? Disons ça comme ça, on sait que Mme Guilbeault a des intentions, qu'elle souhaite sans doute se lancer dans la course à la succession de M. Legault. Donc, aujourd'hui, il y a une roche dans son soulier, disons ça. Ce qu'on sait, c'est que l'avis va indiquer qu'une partie de son témoignage et une partie du témoignage d'anciennes personnes qui travaillaient à son cabinet est jugée non crédible. Donc, est-ce que vous voulez que je vous remette en contexte?
Non, c'est beau. Je n'ai pas le souvenir mais... expérientiel de.
Oui, il y a ça, mais il y a particulièrement l'aspect dépassement de coût. Hein. Rappelons-nous qu'il y a environ un an, là, presque un an.
Les fameux napperons, Nicolas, qui étaient présentés autant à Mme Guilbeault qu'à son équipe.
Oui, mais il y a un an, au dépôt du rapport de la vérificatrice générale, Guylaine Tremblay, Mme Guilbeault avait déclaré qu'elle n'était pas au courant de l'augmentation des coûts, qu'elle n'était pas au courant des avenants, donc de l'argent supplémentaire qui avait été investi de 222 millions de dollars par fractionnement. Or, ce que la commission a prouvé devant elle, c'est qu'il y avait des preuves, des courriels même à son adresse personnelle, révélant qu'elle était au courant et que son équipe était au courant de tout ça dès l'été 2023. Donc, il y a deux ans avant le rapport de la vérificatrice générale. Donc, elle a été un peu prise, les deux mains dans le sac, comme on dit. Hein. C'est tout cet aspect-là qui semble ne pas avoir été cru pour l'instant par la commission Galland. Donc, ces avis-là, là, pourquoi ils ont été envoyés, c'est aussi ça. Bon, c'est des avis qu'on appelle de mauvaise conduite. Là. C'est l'article 88 de la commission Galland. Donc, on prévient les gens qu'ils pourraient être éclaboussés dans le rapport final et on leur donne l'occasion de peut-être engager un avocat et de venir contester.
Donc, c'est un peu, le, Nicolas, je fais le comparatif, c'est un peu comme quand tu reçois un acte d'accusation, là, tu vas aller chercher un avocat, tu vas préparer ta défense, puis tu vas aller faire le plaidoyer de ta défense devant le juge ou devant le jury. Fait que c'est un peu le même principe. On t'avise que tu vas être blâmé, et là, bien, ça te donne un certain temps pour préparer ta défense.
Bien, ça ne veut pas dire que ça va apparaître dans le rapport final, mais on t'informe qu'il risque d'y avoir des informations concernant X points qui vont être te concernant, qui vont être mis dans ce rapport-là. Donc, la commission d'enquête est tenue, elle, de respecter les règles d'équité procédurale. Donc, il reste prudent, puis ces personnes-là sont avisées, puis ils peuvent tenter de rectifier les faits une dernière fois avant la publication du rapport. Donc, ils sont venus témoigner, on a de la preuve, donc le rapport se prépare, puis bon, il y a des conclusions qui sont mises de l'avant, et on donne la chance aux gens qui vont être... On dit plus le mot blâmer, hein, il y a eu des procédures judiciaires là, qui ont été entamées à la suite de plusieurs commissions d'enquête publique. Donc maintenant, on doit dire, dans le cas de la commission Gallant, c'est mauvaise conduite, l'article, mais dans le fond, il y aurait des conclusions défavorables envers Mme Guilbeault, par exemple, son ex-directrice de cabinet, un ancien conseiller politique. Même chose pour, si on se rappelle, là, M. Bonnardel. Mm-hmm. M. Bonnardel serait pas ce qu'on comprend.
Oui, ça touche plus son cabinet à lui que François Bonnardel.
M. Bonnardel a reçu un avis, mais il ne viendrait pas contredire ce que lui-même a dit devant la commission. D'ailleurs, ce matin encore, il rappelait que bon, il n'a pas été contredit, il n'a pas été contre-interrogé lors de la commission d'enquête. Par contre, sa directrice de cabinet de l'époque, Véronique Aubry, rappelons-nous, était intervenue directement dans les documents qui devaient être transmis aux élus de l'Assemblée nationale en mai 2020, là, pour rendre des comptes concernant les coûts et le report de la livraison. Elle aurait omis de son plein gré, à la suite de discussions avec la SAQ, de ne pas mettre toutes les informations. Donc, les élus n'ont pas pu prendre connaissance de tout ça. C'est comme si on avait caché des informations aux élus. Ça reste que son supérieur, c'était M. Bonnardel. Donc, lui, qu'on répète depuis le début est-ce qu'on lui a caché des choses? Peut-être, mais qu'on ne l'a jamais informé de tout ça, tout comme l'explosion des coûts.
Mais dans le cas de Mme Guilbeault, par exemple, la commission sort, puis finalement, il y a plusieurs points qui lui sont défavorables, qui lui sont reprochés. Présentement, avec son passage, qu'on va se dire désastreux, à la commission Gallant il y a de cela quelques mois, est-ce que ça peut vraiment avoir un rôle majeur dans l'opinion publique qui lui est portée, ou son nom est déjà entaché?
C'est une très bonne question. Si Mme Guilbeault décide de se lancer à la course à la succession de M. Legault, on va le savoir assez rapidement. Est-ce qu'elle a des appuis au sein du caucus ou elle se fie principalement sur sa popularité dans la population, en région, auprès des membres? Reste que elle ne s'est pas fait que des amis au sein du caucus de la CAQ dans les dernières années, disons ça comme ça. Maintenant, Mme Guilbeault, est-ce que sa réputation est entachée? Elle a été renommée ministre au sein du Conseil des ministres malgré son passage à la commission d'enquête. Maintenant, ben les avis sont là, on les a sus. C'est pas supposé être rendu public, mais bon, il y a eu des fuites, comme vous pouvez voir. Et là, le rapport de la commission Gallant sera déposé le 13 février prochain. En plein milieu de la course à la direction de la CAQ, donc à la succession de M. Legault, elle devra se défendre publiquement lorsque ça sera rendu public. Est-ce que c'est bon pour elle? Je vous renvoie la question.
Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est une énorme roche dans son soulier, exact. Selon moi, ou dans sa botte. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je veux terminer l'entretien avec toi, Nicolas, justement, en parlant d'une décision de Mme Guilbeault. Et je crois que tu étais à la même conférence de presse que moi. Geneviève Guilbeault, en plein mois de juillet, nous annonce qu'Annie Lafond est nommée directrice générale par intérim de la SAC. Mais à ce moment-là, je ne sais pas si tu avais eu le même feeling que moi, mais moi, je me disais, ouais, Mme Lafond, l'on dit par intérim, mais elle va continuer de la façon que Geneviève Guilbeault avait vanté son CV, ses qualités de rassembleuse, ses qualités en marketing pour refaire l'image de la SAC.
Exactement. Donc, on voulait quelqu'un qui prenait conscience que la SAQ était en crise. Donc, on la nommait pour amorcer le redressement, faire le ménage. Clairement, c'était pas la personne que son successeur, Jonathan Julien.
Ben, c'est ce que j'allais dire.
Voulait finalement.
Ben, c'est ça.
On a nommé une nouvelle personne déjà.
Ben oui, parce que là, hier, puis c'est passé sous le radar, bien normal, là, François Legault démissionnait à 11h, là. Mais on a nommé Serge Lamontagne, un ancien de la Ville de Montréal, à titre de PDG de la SAC. Donc, il y a vraiment des batailles à l'interne au sein de la CAQ là, pour que Mme Lafond ait déjà été remerciée de ses fonctions après 4 mois.
La démission de M. Legault va nous montrer à quel point il y a des batailles à l'interne. Il faut se rappeler que c'est une coalition, la coalition Avenir Québec. Hein. Il y a des souverainistes. Il y a des fédéralistes, il y a des gens qui sont plutôt axés seulement sur l'économie, il y a des nationalistes. Donc, qui va être capable? M. Legault était capable, c'était lui qui avait créé le mouvement, donc c'est son parti, il était capable de tenir tout ça ensemble, avait convaincu les gens qui sont aujourd'hui ministres de se lancer en politique. Alors, qui va être capable de tenir tout ça ensemble? Parce que t'as raison, l'exemple de la SAQ en est un. Donc, on venait de nommer Mme Lafond. Lorsqu'il y a eu le remaniement ministériel, j'étais tombé sur un appel de candidature pour un nouveau PDG. Donc, dès son entrée en fonction, monsieur Jonathan Julien et la nouvelle présidente du conseil d'administration de la SAQ cherchaient, ont engagé des chasseurs de tête, cherchaient déjà quelqu'un d'autre pour la remplacer. On avait dit, Mme Lafond peut appliquer sur le poste, mais on cherche quelqu'un de confiance, quelqu'un qui va amener une nouvelle culture à l'intérieur de la SAQ. Et voilà, c'est pour ça qu'on a nommé un nouveau PDG pour le remplacer assez rapidement. Là. C'est assez exceptionnel. On veut qu'il vienne. Il vient, oui, de la Ville de Montréal. Ancien directeur général et de Laval également, donc quelqu'un qui connaît bien les structures organisationnelles, serait habitué au changement, c'est ce qu'on nous vend. Et donc dans la mission principale du nouveau PDG, c'est vraiment d'appliquer les recommandations, notamment celles de l'Autorité des marchés publics, parce que rappelons-nous aussi que cette semaine, l'Autorité des marchés publics a donné une bonne gifle à la SAQ dans un rapport accablant. Moi, j'ai rarement vu ça.
Et là, même que la SAQ, Nicolas, va devoir rendre des comptes à l'AMP. Donc, c'est un peu comme une tutelle.
Oui, puis donc Serge Lamontagne, le nouveau PDG, arrive à ce moment-là. Donc, comme si la SAQ était déjà sous tutelle, devra rendre des comptes aux 6 mois à l'Autorité des marchés publics, qui est le chien de garde des contrats. Et ça, c'est juste sur l'aspect contrat, hein, parce que si je reviens justement à la commission Galland, pourquoi Mme Guilbeault serait visée par des avis, c'est que le mandat de la commission Galland est beaucoup plus vaste que celui de l'AMP, qui est seulement axé sur les contrats. Donc, ce que l'AMP nous a appris, c'est que, bon, il y a eu du favoritisme, du fractionnement, du manque de transparence, des irrégularités. C'est quelque chose, là, tout ce qu'on retrouve dans le rapport de l'Autorité des marchés publics. Maintenant, sur le côté, l'aspect politique, M. Galland devait faire le point sur qui savait quoi également. Donc, on va en apprendre plus. Et rappelons-nous, parce que si on fait le tour de la roue, c'est qu'il y a une enquête de l'UPAC dans le dossier. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des accusations, surtout à la lecture du rapport de l'AMP? Donc, il y a clairement eu des irrégularités, du fractionnement, et je le répète, un manque de transparence. On a placé des gens dans des situations qui devaient être confidentielles, puis il y a de l'information qui circulait par rapport à l'octroi, je vous rappelle, du plus gros contrat informatique de l'histoire du gouvernement du Québec. Un contrat de 638 millions, là.
Ouais. Nicolas Lachance est journaliste sur la colline parlementaire pour le Journal de Québec, Journal de Montréal. Nicolas, félicitations pour ta couverture dans le dossier Satlick. On va continuer à se parler. Puis merci aujourd'hui, hier, en pleine démission de François Legault, de nous avoir rappelé que ce dossier-là existe et que ce dossier-là est un véritable fiasco.
Oui, et aura un impact sur la future course. Merci beaucoup.
Ah, c'est clair. Merci, Nicolas. On se reparle bientôt. Salut, merci beaucoup. Nicolas Lachance, si vous ne le lisez pas dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, allez le lire à chaque jour. Il y a des textes tellement intéressants et il a fait une couverture impeccable du dossier Satlick. Circulation, Mathias?
Oui, juste vous dire, en ce moment, sur Dufresne-Montmorency, en arrivant dans la Haute-Ville, donc en arrivant sur Honoré-Mercier, il y aurait un camion présentement pris dans une côte parce que c'est trop glissant. Donc, la voie de droite qui serait présentement bloquée, ça crée évidemment un léger ralentissement dans le secteur. Merci à Sébastien qui nous a écrit pour justement nous en informer. Si vous avez des informations sur la situation, 418-971-1021, juste vous informer également. Laurentienne, direction sud, en arrivant sur Capitale, léger ralentissement.
Faites attention sur la route parce que c'est de l'accumulation de neige de 5 à 10 cm qui est prévue pour aujourd'hui, moins 1 degré, moins 10 degrés demain. Il va y avoir de la faible neige qui va cesser en mi-journée, mais il va y avoir une autre accumulation de 5 à 10 cm cette nuit, moins 7 degrés alternant soleil et nuages pour samedi, moins 2 degrés de la neige pour dimanche. Avant d'aller à la pause, Mathias, on écoute ensemble Jean-François Simard qui ne ferme pas la porte à une course à la chefferie.
C'est gentil de me poser la question. À ce stade-ci, je n'ai pas de réponse définitive à vous donner. J'ai beaucoup d'amis. Certains m'encouragent et puis il faut penser à ça. Mais pour l'instant, d'abord, moi, j'ai encore un peu le deuil à faire du départ de François Legault, qui est un ami, comme vous le savez, de 30 ans. Moi, j'ai été son premier adjoint parlementaire lorsqu'il a été nommé ministre de l'Éducation. On a cofondé ensemble la coalition Avenir Québec il y a 14 ans. J'ai eu l'honneur d'être nommé ministre avec lui.
Ça vous intéresse, oui ou non, de vous lancer?
Non, non, moi, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de penser à une course au leadership au sein de laquelle on va débattre d'idées.
Je souhaite vraiment pour la CAQ, Mathias, qu'il y ait 5, 6, 7 candidats, qu'on ait des débats d'idées et qu'on replace cette formation politique-là sur l'échiquier politique.
Mais en même temps, 5, 6 candidats, faut que ça brasse, mais pas trop non plus. Faut le rappeler, c'est une coalition, fait qu'il va falloir que quelqu'un arrive à la chefferie de ça puis réussisse à garder tout le monde ensemble. Mm-hmm. Fait que si on a passé une couple de mois à être 5, 6 candidats puis que la CAQ s'est séparée en 5, 6 partis puis que ça passe son temps à chicaner, je vois mal comment quelqu'un pourrait ressortir de là puis rallier tout le monde ensemble.
Ouais, d'un autre côté, ça pourrait donner un positionnement aussi, peut-être un petit peu mieux. C'est à suivre. Troisième lien, on écoute Bernard Drainville par rapport à ce projet.
Ben oui, l'échéancier, le calendrier qu'on s'est donné, le tracé que Jonathan doit annoncer, le budget cible, tout ça, c'est maintenu, là. En tout cas, si c'est pas maintenu, j'aimerais bien le savoir.
Monsieur Drainville, est-ce que vous croyez en disant ça?
Puis, je veux dire, j'ai trouvé ça drôle parce que quand il a dit « c'est maintenu, ça reste en place », puis ça se peut que Jonathan Julien fasse sa conférence. Ça se pourrait très bien parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de nouveau chef. Le nouveau chef va-tu rebrasser? Bon, ça va être à voir. Mais dans tous les cas, je veux dire, Bernard Drainville, puis il a dit un peu plus tard dans sa conférence, il n'y a rien qui m'indique du contraire. Pourquoi on reculerait dans le projet? Parce que vous l'avez fait à plusieurs reprises.
Exactement.
Ce serait pas la première fois.
Puis ça va être une question de la course à la chefferie, le fameux troisième lien qui est très polarisant.
Aussi.
L'échelle de la province. Donc, ça me surprendrait bien gros qu'on avance énormément dans ce dossier-là d'ici aux élections.
Et si un nouveau chef arrive à la CAQ et veut remonter la CAQ, est-ce que c'est vraiment stratégique promettre un troisième lien? Parce qu'en promettant un troisième lien, la région de Québec ne te croit pas de toute façon, étant donné que tu représentes la CAQ qui a reculé et avancé dans le projet à maintes reprises. Et en plus de ça, tu viens te mettre à dos le restant du Québec. Est-ce qu'il y a une optique de victoire ou de gain politique pour un futur chef de la CAQ de promettre un troisième lien?
Le seul gain politique serait de le promettre à l'Est et peut-être d'aller chercher là, des appuis dans Chaudière-Appalaches. Félix qui nous écrit, Sonia Lebel, prochaine chef, je vous l'aurais dit, ben tiens, 418-971-101, dites-nous qui vous voyez comme chef, futur chef, est-ce que c'est une candidate ou un candidat à la chefferie de la CAQ et ainsi... Votre nouvelle ou nouveau premier ministre, parce que pendant une certaine période, cette personne-là sera premier ministre jusqu'aux élections du 5 octobre 2026. On fait une courte pause à l'émission On en jase. Après la pause, on fait le tour des principales manchettes et Rémi Villemur s'installe avec nous. Rémi veut nous expliquer pourquoi dans 10 ans, les livres d'histoire vont nous dire que François Legault a été un bon premier ministre pour le Québec.